un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Bidubuda, bébé, bébé. Par les temps qui courent,
ça y est, puis 21 ans.
Marie Richeux.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Lorsqu'on ouvre la pochette du disque, le rouge trait du crayon qui zébrait la couverture se répand dans un aplat dense, rouge, cœur, indéniablement. À l'hiver 2017, une urgence à se fondre dans le son, à la maison, dans l'intimité, vous fait enregistrer des chansons dont vous écrivez qu'elles sont d'instinctifs mouvements d'amour et de résistance. Le son y est humide, chaud, fermé, direct. C'est vous qui le dites encore, c'est le son du cœur d'une femme. Rouge cœur donc. Amour et résistance sont de grands mots, mais les grands mots ne vous font pas peur. Liberté avec, l'espace aussi. Peut-être parce que vous leur donnez une dimension intime. Comme ce laboratoire, studio, bureau, photographie en noir et blanc pour la couverture, en couleur pour l'intérieur, avec coussin sur la chaise, petit ventilo et vasistas pour la lumière. Il faudra au moins cela si l'envie nous venait de dissiper le fog enveloppant qui règne sur votre disque Lilies. Bonsoir Mélanie de Biasio.
Bonsoir.
Et il est paru chez Piace. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
All we do is fighting day and night, embracing the glory light, burning a path through our eyes, illuminating nature in the other way, illuminating other way, illuminating nature in the other way, nature hours.
Mélanie de Biasio, ce n'est pas le morceau qui ouvre votre disque Lilies. C'est un morceau qui s'appelle Gold Junkies, qui arrive plus tard et qui est dans une énergie extrêmement différente du premier morceau que vous choisissez pour ouvrir l'album. Et pourtant, moi, je ne sais pas, j'ai envie qu'on entre dans cette énergie-là. Est-ce que c'est important pour vous, la manière, la porte qu'on prend en tant qu'auditeur pour rentrer dans votre travail ?
Non. En fait, c'est ça qui est assez beau dans la façon dont vous pouvez proposer ce morceau en premier, parce que pour moi, ça a aussi tellement de sens de rentrer dans cet album avec ce morceau-ci, puisqu'en plus, Gold Junkies, quelque part, est le morceau qui a été à l'initiative de la création de Black & Cities, qui est l'album juste avant, qui en fait est une longue... Black & Cities est une longue... création instantanée, basée sur justement Gold Junkies, que les musiciens ont entendu en studio pendant une demi-heure, et puis on s'est dit tiens voilà, on enregistre, et on a fait une longue chanson de 24 minutes qui était tellement dense qu'on s'est dit voilà, c'était vraiment important qu'on le sorte. Donc Gold Junkies commençait à parler de Lilies avec Gold Junkies, et bien oui, Bien sûr, oui.
Qu'est-ce qu'ils avaient attrapé, vos musiciens ou les musiciens qui étaient avec vous en studio dans Gold Junkies, pour avoir envie de tirer les fils et de composer cette incroyable pièce sonore presque, hein, qui est Black and Cities? Qu'est-ce qu'ils avaient entendu dans ce morceau qu'ils ont eu envie de poursuivre?
Le texte, cette ligne de basse finalement, qui est un peu comme un mantra, et ce tambourin qui est tchiki 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 tchiki, qui est là constamment, et donc quelque part c'est vraiment comme si c'était un petit blues un peu à la Sinnerman de Nina Simone. Il y avait quelque chose de très électrisant, et en même temps très simple en termes de notes, ou de tout était basé sur l'énergie. Et donc c'est vrai que comme en concert, on a vraiment l'habitude, quand je monte sur scène, je ne sais pas ce qui va se passer. Je monte vraiment avec une page blanche. Je sais que j'ai créé une playlist, mais cette playlist finalement va me permettre de construire, si vous voulez, le concert, cette création instantanée qu'est le concert. Mais encore une fois, aucun arrangement n'est décidé à l'avance. Donc ce que je sais, c'est que je dois faire une création instantanée, avec une construction, une évolution dans la construction, avec un début, un développement et une fin, et que ça demande un rythme de développement, mais que la mission, c'est vraiment d'être au service du moment présent, et que toutes ces chansons finalement qui sont figées sur le disque sont des couleurs sur la palette du créateur peintre, mais que toutes ces couleurs doivent encore se mettre sur la toile, et que ce sont vraiment des matières vivantes qu'on va projeter et sur lesquelles on va vraiment jouer. Ce qui fait qu'en effet, chaque création et chaque concert est une création vivante très très en relation avec le public du soir, avec l'acoustique du moment. Et donc Black and Cities, pour moi, était la plus belle façon, si vous voulez, de permettre à l'auditeur de leur dire, mais voilà ce qui se passe en live avec De Biasio. Quand vous venez voir un concert, c'est cette énergie-là que vous allez ressentir.
Et alors le fait qu'on commence par un morceau qui est précisément fixé, car le disque, c'est ça, c'est à la fois sa beauté, mais c'est aussi la manière dont il rend les choses fixe et figé pour la musique, ça vous chagrine?
Non, disons que l'exercice est très différent. Comment préserver le vivant en live? Voilà, j'ai trouvé ma façon. Mais c'est vrai, comment préserver le vivant dans un disque, donc dans un cadre qui finalement sera figé? Je pense aux peintres. Comment, à chaque fois que je passe devant un Matisse, par exemple, j'ai l'impression à chaque fois que l'histoire est différente, à chaque fois j'ai l'impression que ça vient me réveiller des choses qui sont différentes. Comment il a réussi à éveiller mon vivant dans quelque chose qui est figé? Mais quelque part, quand je me pose cette question-là, quand je crée un disque, comment alimenter ce vivant? Et par exemple, c'est vrai que je suis très sensible à n'enregistrer que des prises uniques. Donc il n'y a pas d'édite, donc il n'y a pas de coupage dans les prises. Donc par exemple, quand la voix doit faire la chanson, déjà en général, souvent j'aime bien enregistrer en simultané avec l'instrument de base, que ce soit le piano ou la batterie, mais d'enregistrer ensemble, parce que clairement il y a une interaction qui se fait, il y a un lien qui met toute la dimension vraiment à la rencontre. Mais surtout, c'est vrai que on prend la prise ou on la prend pas. Mais on va pas commencer à essayer de couper dedans, à prendre un peu du moi-je, puis la fin de la phrase, non. Parce que encore une fois, tout est une question d'intention. Et le plus important entre deux notes, c'est le silence qu'il y a entre ces deux notes. Donc, toute la respiration qui se met entre deux phrases, il faut justement la préserver et la garder, parce que c'est ça qui va donner toute la dimension à cette note ou à cette phrase. Et donc, encore une fois, on prend ou on ne prend pas. Mais c'est un choix où il n'y a aucune concession à faire à ce niveau-là. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose importante, ou comment préserver le vivant dans une création sonore qui est un discographique, donc c'est la prise entière, et c'est aussi de préserver, si vous voulez... Non, je dirais la deuxième façon après. Un peu plus tard.
Vous avez dit tout est une question d'intention. En fait, à vous écouter et à vous regarder parler du vivant dans un disque, je me dis que tout est aussi question d'intensité et il me semble que ce n'est pas un hasard si j'ai commencé par parler de cette aplat rouge qui saute aux yeux et au corps lorsqu'on ouvre le disque Lilies. Au départ, c'est vraiment juste un crayon qui a déjà beaucoup de puissance sur la couverture. Et lorsqu'on l'ouvre, c'est de la peinture. Ce rouge-là, il me renvoie à ce que vous venez de dire, à savoir l'idée qu'il faut trancher. Dans le rouge, il y a vraiment cette idée-là, il faut trancher. Est-ce que ça dit quelque chose de votre rapport à la musique, Mélanie de Biasio?
J'aime le mélange entre le mot doux et le mot fermeté. Parce que je pense que dans la vie, on doit faire des choix. Et c'est pas parce qu'on doit faire des choix que ça doit être dur. Et je crois qu'au contraire, une douceur encore plus ne prend encore plus que sa texture, comment je peux dire. Une vraie douceur est empreinte de fermeté. Non, je sais pas. c'est mon ressenti. Et donc la réflexion sur même sur le support quand on parle du disque, c'est vrai que la réflexion sur le fait tiens, quel type de rouge, est-ce que c'est un rouge un peu fané, est-ce que c'est un rouge un peu foncé, est-ce que c'est un rouge vivant un peu comme le sang, est-ce que c'est un rouge rosé, quel type de rouge, et puis l'intérieur, tiens, quand je touche le papier, quel type de papier, est-ce que ça doit être un papier satiné, ça doit être un papier mat, et là justement on a fait un choix de en même temps de prendre des photos dans un glossy très très actuel finalement. Et puis l'intérieur, toutes ces paroles, on a choisi un papier à la base qui était un papier japonais très très fin, mais voilà, on pouvait pas au niveau du coût de la production se le permettre. Mais donc on a essayé de s'y rapprocher, ce qui fait qu'en effet, quand même on ouvre ce livret, il y a un voyage au niveau texture qui est important.
Vous avez dit tout à l'heure que le trait d'union entre ces deux disques, Black Cities et Lilies, c'était presque la surprise ou l'intérêt ou l'émotion des musiciens et votre émotion au texte de Gold Junkies. Votre manière d'écrire, c'est intéressant que vous ayez pensé à du papier japonais. Il y a quelque chose de très précis, d'extrêmement précis dans votre écriture. Est-ce que vous le diriez comme ça d'une part? Et est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez?
Je suis sensible au micro, au point, tiens, qu'est-ce qui... Dans quelque chose de tout petit, où est le côté universel dans quelque chose de tout petit? Où est-ce que je vois le macro dans le micro? Et c'est pareil dans la musique. Tiens, avec une note, quelle est cette note où j'ai l'impression qu'en disant cette note et l'intention, tout est dit. Et c'est pareil en effet dans l'écriture ou dans le dessin. Pour moi, écrire, c'est pas juste écrire. Dans l'écriture, déjà, mon énergie, elle passe dans mes doigts, elle passe dans la plume, et puis l'encre, le papier. Tout ça est une intention. Et si on prend conscience et qu'on y met toute sa présence, le peu qui va être déposé sur le papier va être fort, va être dense. Et donc quelque part, pour moi, je crois, ce qui m'intrigue le plus dans toute la création, c'est le côté impalpable en dessous de l'iceberg. Donc tout ce qui se prépare en amont, qui fait que quand ça va sortir, il va sortir l'essentiel, mais c'est tout le processus d'avant qui va faire que... Et donc, en effet, le silence entre les notes, en effet, l'intention avant le souffle, avant la note, je porte mon attention surtout à ces endroits-là.
Comme le poème, vous parlez de la manière dont ça travaille en sous-sol avant que de sortir et de placer à l'air libre une forme d'intensité. Mélanie de Biasio, vous écrivez comme des poèmes ou vous écrivez des poèmes. Est-ce que c'est un genre littéraire que vous lisez?
Oui. Ah oui. J'adore lire les poèmes. Parce qu'en fait, je lis très lentement. Je suis une lente dans la vie. Pour certaines choses, et c'est vrai que lire, je lis très lentement, je lis souvent à voix haute ou à demi-haute, et les poèmes, ça me va bien. Ça me fait du bien.
Pourquoi ça vous fait du bien?
Parce que tout est dit avec tellement peu de mots, mais en même temps, les mots choisis font tellement une épiphanie en moi que voilà, tout est dit avec tellement peu, mais en même temps c'est là pour moi le plus beau luxe ou la jouissance de l'art, c'est quand deux mots simples se conjuguent ensemble, se marient ensemble et font que ouais, on peut y trouver toutes les nuances de la vie.
Est-ce que vous liriez ce texte-là pour nous, pour les gens qui nous écoutent, comme si vous lisiez chez vous un poème? C'est une chanson qui s'appelle « All My Words ». C'est pas par hasard.
All my words unfolds. All my thirds unsung. To the blossom of my lips they surrender. To the blossom of my lips they surrender. All my thirst. Non, je me perds dans les mots. En fait, c'est fou parce que ces mots, finalement, sont... C'est vrai que c'est un peu ma première chanson d'amour, tout court, cette chanson.
De la vie.
De la vie. C'est la première chanson d'amour que j'ai écrite dans ma vie. Et c'est une chanson d'amour que j'écris à un homme, mais que j'écris surtout à moi. Mais que j'écris à la vie, en fait. Et je dis que tous mes mondes s'ouvrent. Quelque chose s'autorise. Toutes mes fins. Donc quand j'ai faim, toutes mes soifs qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été reconnues. Et to the blossom of my lips they surrender. Ça veut dire que vraiment tout ça se revient vers ma bouche. Et juste to surrender. Comment on dit ça en français? To surrender.
S'abandonne.
Oui, s'abandonne. Et quand je parle après, all my trust, Dieu, que c'est difficile de faire confiance. Et quand on dit, all my trust unfold, all my lusts, toutes mes jouissances, unfurl. Enfin voilà, c'est toute une densité qui sort en tant que femme louve, en tant que femme tout court, et qui dit, from the bottom of your kiss, I am closer. Ça veut dire que tout ça, je sens que j'arrive vers toi, femme vierge, femme puissante, femme aux mille facettes et femme qui se reconnaît en tant que femme et qui cherche un homme, qui s'est reconnue en tant qu'un homme, qui se reconnaît en tant qu'homme et qui vient à la rencontre de cette chose qui est sacrée, qui est l'amour, qui est le sexe, qui est tout, qui est la vie, qui est l'universel. All my words, j'aurais pu dire aussi all my worst, tous mes pires, vient à ma bouche, and surrender. Et quelque part, si on aime son pire, si on reconnaît son pire au travers, avec l'œil de l'autre, mon Dieu, ça c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je nous souhaite à tous, en fait.
Dure et tendre, sévère et sentimentale, passionnée et raisonnable, sombre et verte, qui entoure la ville de Charleroi, au centre du Hainaut industriel, et de ce qui fut, riche souvenir de la forêt charbonnière, une des plus solides mamelles de la Belgique. On préférerait, bien sûr, parler au présent. Des mots concrets à portée de la main de l'œil me la résument arbitrairement, mais chaleureusement. Charbon, acier, goudron, plâtre, fromage blanc, café noir. Une région où la fumée des usines cache le soleil en plein midi, sous la tenture rousse, âcre et collante de sa poussière de soufre, où le ciel en plein minuit s'empourpre soudain dans le déploiement flammé de coulées projetant des ombres hallucinantes sur les nuages nombreux qui se prêtent au spectacle. D'autres ombres encore, celles soyeuses des terris, celles plus rugueuses des châssis à molettes de charbonnage, celles des pavés ténues et rondes, des pavés, des toits de tuiles, des casquettes à grosses visières sur du poil foncé. Un pays dur, sévère, disais-je, mais qui sait rêver à l'image de la petite balle pelote qui voyage, pleine du muscle qui la projette au-dessus des ballodromes et des yeux passionnés, s'enthousiasmer pour des concours de chants de coq ou de pinsons. Peut-être ce décor, le plus souvent sinistre sous son masque pittoresque, explique-t-il ce besoin de chacun de se rapprocher des autres? Alimente-t-il une grosse chaleur qui se fait parfois drôle derrière la chope de bière, dans les cafés malfamés de la périphérie, aurait dit Achille Chavée, qui éclate de temps en temps à l'occasion des fêtes de Saint-Éloi, de Sainte-Barbe, des kermesses de quartier, des carnavals. Le mot revendication, ce n'est pas le seul, a été, est, lui aussi, bien souvent de la fête, sous la houle des drapeaux le plus souvent rouge. Le présent s'agite intensément dans le passé.
Mélanie de Biagio, je me permets de vous faire ouvrir les yeux. Vous étiez plongée dans la musique de Gavin Bryars à l'instant. Je pense que c'est une clave là qui fait presque pleuvoir la pluie dans le paysage qui était décrit juste avant par André Balthazar, un éditeur et poète belge qui parle de la ville de Charleroi, qui parle de décor, qui parle de résistance, qui parle d'ombre, qui parle de s'enthousiasmer pour des combats de coqs ou de pinsons. On a trouvé cette archive-là pour vous faire parler des lieux, Mélanie de Biagio. Peut-être des lieux où vous composez, mais aussi des lieux que vous créez avec votre musique. Lorsque dans l'équipe, on parle de Blacknet City, qui est une chanson dont on parle ici, entre nous, oui. On parle de paysages. Est-ce que ça vous parle, l'idée que vous composez des paysages?
J'essaie de créer de l'espace, des espaces. Et en effet, des paysages, c'est vrai que ça me parle parce que c'est comme ça que je compose. J'aime m'inventer des visuels pour pouvoir vraiment me plonger, rentrer dans une histoire, parce qu'encore une fois, une histoire a besoin pour moi d'un contexte. Et donc, je m'invente des contextes. Après, j'essaie de ne pas trop en dire sur les contextes que je m'invente, parce qu'encore une fois, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que la musique inspire l'autre à avoir envie de se créer un contexte ou avoir envie de se créer un paysage. Donc oui, créatrice d'espace, oui.
Alors sans parler des contextes, peut-être est-ce que vous nous diriez la météo qui règne sur l'Élysée? Moi, j'ai parlé en introduction d'un fog, d'un brouillard humide dont il me semble pas du tout qu'aucune des chansons ne s'extrait. Il me semble que vraiment, même si ces chansons sont différentes, elles vivent dans le même brouillard.
Disons que l'envie avec ce disque, c'était vraiment de revenir vers l'essence. Et l'essence, c'est quoi? C'est après Blacknet City, justement, où quelque part, c'était une grande création avec les instruments, très très instrumentales finalement, où la voix est très présente, mais dans le silence. Elle accompagne toute cette longue évolution, mais elle en dit très peu. J'avais vraiment envie de revenir dans la bouche et dans cette cavité, finalement, du plus intime, d'où sort le souffle, et donc d'où sort quelque part cet art du vivant, cette notion magique et secrète du vivant, et d'explorer, tiens, cette caverne. Et dans cette caverne, en effet, cette caverne est faite de buée, elle est chaude, elle est humide, elle est noire, en même temps, je ne sais pas si elle est noire, mais en tout cas elle est sombre, en même temps elle est rouge. Et j'ai promené cette bouche dans plein de villes depuis ces 3 dernières années. Et quelque part, Blacknet City, Gold Junkies, Lilies, c'est quelque part un voyage et une relation avec son ombre, avec son soi, avec son... Et c'est comment je me promène, ou comment je me balade, ou comment je me mets en lien ou pas avec mon monde, mais surtout avec le monde. Et finalement, mon monde n'est que le... et mon microcosme du monde dans lequel je suis, dans ma relation aux autres. Donc l'Élysée, c'est en effet une conversation avec quelque chose qu'on n'aime pas de soi, quelque chose qu'on n'a juste pas envie d'inviter chez soi, mais qui s'invite malgré soi.
Et ça vaut aussi pour les villes, Mélanie de Biagio. D'une certaine manière, c'est comme si vous peigniez avec ce disque-là, et peut-être aussi avec ceux d'avant, ce pire dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de regarder avec amour le pire des villes, le pire, des microcosmes, et de le faire remonter dans une forme de lumière.
Ce qui me touche dans toutes ces villes, finalement, c'est qu'on y est tous, on est empilés, on est tous attirés quelque part dans ces points rouges qu'est la ville, en quête de beauté, en quête de gold. Alors gold, ça peut être l'argent, ça peut être la reconnaissance, ça peut être drugs, ça peut être le sucre, ça peut être les achats compulsifs, ça peut être plein de choses, the gold. Mais en même temps, ça peut être aussi tout simplement la lumière, ça peut être l'éclat, ça peut être la beauté dans le regard de l'enfant, la beauté, ça peut être plein de choses, the gold. Et en même temps, ce qui m'a touchée dans toutes ces villes, donc, c'est qu'on est tous attirés dans ces villes, finalement, qui sont sales, qui sont noires, qui sont... Et en même temps, bouillonnantes, où il y a tellement de beauté qui se mélange avec quelque chose de sale. Et en même temps, on est fait de tout ça. Et en même temps, ce qui est fou, c'est que si on peut embrasser, justement, cette dualité qui est fait de ça, de tout ça... Mais voilà, je pense que c'est là où finalement on peut vraiment se mettre en lien et faire que ça s'élève par le haut, en fait. Je sais pas.
Dans la voix de ce poète et éditeur belge, il était question des revendications qui arrivent dans certains bars de Charleroi. Et vous, quand vous parlez de vos chansons, vous dites que ce ne sont pas des revendications, mais des actes de résistance. Des résistances à quoi, Mélanie de Biasio?
Je crois que la seule chose dont on souffre dans la vie, c'est de ses propres résistances. Si on souffre dans la vie, c'est parce qu'on résiste à ce qui est. Et que je crois que ma plus grande... c'est moi. En tout cas, c'est comme ça que je peux comprendre ou identifier quand je souffre de quelque chose. C'est parce que je me dis, ah, tiens, je n'accepte pas ce qui est en train de se passer, ou je n'accepte pas. Alors la seule façon d'accepter, c'est d'accepter qu'on n'accepte pas, peut-être, mais en tout cas, la résistance, elle est là pour nous permettre de comprendre ce qu'on n'accepte pas, et elle nous invite à juste observer et à regarder ce qui est. Et quand on parle de Charleroi, qui en effet est ma ville natale, et c'est la ville où j'ai décidé de revenir aujourd'hui, et d'y avoir un projet artistique de résidence d'artiste.
De résistance.
Exactement. Parce qu'en plus, c'est vrai que j'ai acheté
vous avez acheté une grande maison.
Ouais, j'ai acheté une grande maison parce qu'en effet, j'ai l'impression d'être une artiste en résidence permanente. Et quelque part, cette maison, elle va accueillir des artistes dans des moments clés de transition artistique. C'est-à-dire ces moments, finalement, où on est obligé de on sent qu'on n'est plus en phase avec ce qu'on est, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on donne, et donc avec ce qu'on reçoit, et que quelque part, la vie nous demande de nous réajuster, de nous repositionner et peut-être d'abandonner les choses et d'accepter le néant et d'accepter qu'on ne sait plus, en fait. Pour pouvoir laisser venir quelque chose de neuf, il faut pouvoir retirer ses peaux, en fait, et accepter à un moment donné qu'on est à vif et qu'on peut en effet laisser venir de nouvelles choses. Ces moments clés, finalement, de transition, je crois que si l'artiste aujourd'hui, ça n'est pas sa mission, alors c'est la mission de qui ? Parce qu'aujourd'hui, on court tout le temps et c'est pas un jugement, c'est juste comme ça. On est pris dans le tourbillon de la vie et je crois que, en tout cas, moi, artiste, ma question fondamentale que je dois me poser tous les jours en me regardant la glace le matin ou pas, en me regardant, en me sentant simplement, c'est est-ce que je suis en phase avec ce que je sens, avec ce que je suis, avec ce que j'émane? Est-ce que je me sens en phase avec la vie? Avec ce qui m'entoure. Et si pas, tiens.
Qu'est-ce que je peux faire?
Mais prends ton courage à deux mains et juste observe, en fait. Parce que c'est ton rôle aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ton rôle, c'est de pouvoir, si tu ouvres la bouche et que tu offres et que tu donnes ce champ fait de vivant, ce vivant ne pourra être vivant que si tu es en phase avec le présent. Et donc, moi, en effet, je me sens en tant qu'artiste en résidence permanente et donc en lien avec ces résistances de façon permanente. Et en même temps, c'est pas parce qu'on est en lien avec ses propres résistances qu'on est une artiste qui souffre. Au contraire, je crois qu'il y a une vraie libération, quelque chose de doux qui coule, en fait, dans le fait de pouvoir observer et pouvoir embrasser ses résistances. Je dis pas que c'est simple tous les jours, mais en tout cas, pouvoir ouvrir une grande maison qui accueille tous ces artistes qui, à un moment donné dans la vie, sont en phase de pouvoir, d'avoir besoin d'un lieu où ils peuvent fermer la porte et pouvoir retirer leur peau pour pouvoir voir ce qu'il y a en dessous de ces peaux et en même temps se mettre en lien avec le rez-de-chaussée qui est un lieu, le rez-de-chaussée, où on va peler les patates pour pouvoir faire leur pas de midi avec le citoyen qui passe la porte de la maison et de juste se sentir utile. Utile, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bon de se sentir utile. Qu'est-ce que ça me fait du bien, moi, en tout cas, de me sentir utile dans les petites choses à faire dans le day-to-day. Et puis de pouvoir remonter en haut et de pouvoir juste infuser ce qui s'est passé au rez-de-chaussée. Bref, c'est une maison qui va vivre avec différents étages et différentes expériences à vivre par rapport aux étages. Et j'avais besoin d'ouvrir une grande maison où je sens que d'autres artistes comme moi. Je ne suis pas seule, en fait, dans cette démarche. Et je sais que je ne suis pas seule, mais j'ai envie, en tout cas, d'avoir une maison qui accueille ces autres artistes et de sentir que quand je sors mes peaux et quand je partage cette bolognaise avec laquelle j'aurais... Voilà, j'ai envie de lire.
Dans cette cuisine, Mélanie de Biasio, oui. Quand vous serez en train de préparer les bolognaises, oui. Peut-être de, je sais pas, éplucher les patates, ou peut-être de rire avec le citoyen qui passe, justement, comme vous disiez, peut-être que dans un fond... Là-bas, dans un poste de radio, une vieille chanson jouera et je ne sais pas.
Para ti yo soy, para ti yo soy solamente una bambola. Con quien juegas tú, con quien juegas tú, solamente una bambola. No te acuerdas cuando lloro, cuando estoy muy triste y sola. Solo piensas en ti. No, muchacho, no. No, muchacho, no, de mi amor no te rías más. No es un juego más, esto se acabó, no mereces mi corazón. Te prometo firmemente que no volverás a verme, no. Ya no te quiero más.
C'est la voix de Patti Bravo qui chante La Bambola. On est en 1968, on est pile 10 ans avant que vous ne naissiez en Belgique, Mélanie de Biasio. On passe par ce chemin de la musique italienne pour peut-être essayer de voir comment la musique est entrée dans votre vie et comment est-ce qu'elle vous permet à vous de trouver du vivant.
Comment elle me permet de retrouver du vivant?
Ou pourquoi est-ce qu'on est passé par de la musique italienne?
Ah, parce que peut-être j'ai des racines italiennes et que ça me rappelle ma grand-mère, mia nonna, qui a perdu son mari très très tôt et finalement a épousé la radio. C'était son mari à la maison, la radio allait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'était vraiment devenu son compagnon de vie et on a passé beaucoup de temps chez ma grand-mère. Et c'est vrai que elle m'a fait découvrir la musique italienne et la musique populaire et son amour pour le chant. Elle n'arrêtait pas de chanter. Et je crois que c'était elle. elle nous a motivés, elle nous a permis, elle nous a montré l'exemple, en fait, à mes frères, ma sœur et moi.
Quel exemple de dire qu'il y a quelque chose dans le chant qui permet d'être en vie, qui permet d'être joyeux, qui permet d'être là.
Mais que la voix est un beau fruit mûr, qui ne demande qu'à être partagé et qui est vraiment un fruit mûr de joie. De joie. Et en même temps, on peut écouter tous ces artistes italiens qui parlent de quoi? De tristesse ou bien de... Ils peuvent parler de sujets très difficiles. Et en même temps, de ce fruit mûr coule un jus, un suc qui est quelque part tellement nourrissant que ça éveille l'amour chez l'autre, en fait. Et c'est beau, voilà, ma grand-mère, je pense, m'a inculqué ça.
Pourtant, vous ne chantez pas en italien, alors ça n'a peut-être rien à voir, mais comme on a commencé par parler de vos textes écrits, on n'a pas pris le temps de parler de l'anglais et de la place que ça prend dans votre vie, dans votre rapport à l'art, Mélanie de Biasio. Alors il y a ces langues-là, je ne sais pas s'il y en a d'autres que vous parlez, mais donc l'italien, le français, vous le démontrez parfaitement, l'anglais. Pourquoi est-ce que c'est cette langue-là que vous choisissez pour écrire ?
L'anglais était... C'est vrai que la Belgique, finalement, c'est un petit pays au centre de l'Europe. Et dans ce pays, on a trois langues, déjà. On a le néerlandais, on a l'allemand et on a le français.
Et c'est pas une petite question, les langues en Belgique.
Et c'est pas une petite question. Et du coup, c'est vrai que l'anglais, finalement, qui est la langue qui nous rassemble, où finalement, on écoute beaucoup de musique anglaise, on se parle en anglais... de façon très instinctive, même dans mon band, par exemple, dans mon groupe, il y a deux flamands, trois francophones, et finalement, on se parle beaucoup en anglais, même entre francophones, parce que c'est une langue qui nous rassemble. Et du fait que, en effet, j'écoutais beaucoup de musique anglaise, que je regardais beaucoup de films en version originale. Et puis, 18 ans, tiens, Conservatoire Royal, le jazz ou le classique, j'ai choisi le jazz. Du coup, mais voilà, toute la musique afro-américaine, le blues, le jazz, tout ça était de l'anglais. Et donc, quelque part, l'anglais, c'est un signe, c'est invité dans ma vie, qui fait qu'à partir du moment où j'ai commencé vraiment à rentrer dans l'anglais, j'ai commencé à penser en anglais, j'ai commencé à rêver en anglais. C'était dingue. Je passe un peu de temps à New York où, je sais pas, j'étais encore... il y a 6 mois, j'étais à Los Angeles, je me souviens, je me lève, je pense toute seule, je pense en anglais. Et c'est très agréable, en fait, comme sensation. C'est très agréable. C'est comme si je m'autorisais des choses aussi que la Mélanie en français ne s'autorise pas. Et la Mélanie en français s'autorise des choses que peut-être la Mélanie en anglais ne s'autorise pas, je sais pas, mais... disons que ça éveille différents angles du kaléidoscope qu'est Mélanie.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux.
I'm suffering my resistance. At your insistence, my skin hot and pointless. I want nothing new, and I want nothing bound. Everything strays. Even I can't look into my eyes. Soulless soldiers will listen so closely. We breathe beneath the scars of shivering flesh and our bone frozen. We wander now, we wander and found. And the band played on. And the band played on. Thank you.
Mélanie de Biagio, on a choisi ce morceau parce qu'il y a beaucoup de choses de l'essence de ce disque, Lilies. Il y a tout ce que vous avez dit de la voix, et on y reviendra. Il y a la flûte, il y a le souffle, et il y a ce heartbeat à jouer avec je ne sais pas quoi.
Avec la voix.
C'est vrai ?
Mm-hmm.
Faites-le là pour voir. Ah, ça c'est la respiration.
Ah non, le beat comme ça. Non, ça c'est un beat.
Mais par contre, la respiration, c'est fou, vous pouvez le refaire. J'aurais jamais pensé que c'était quelque chose d'organique. Parce que c'est presque un train aussi qui est en route. C'est quelque chose du souffle. Le souffle est extrêmement présent sur ce disque Lilies. Et on ne sait jamais si c'est un souffle de vie. Ou si c'est un souffle à bout de souffle, un souffle d'épuisement.
En fait, ce qui est compliqué dans ce souffle-là en question, c'est que je retiens et l'intention de ce souffle est particulière. Je retiens, je souffle et je retiens en même temps.
Et vous diriez que c'est un souffle, c'est une respiration qui arrive à prendre de l'air ou c'est une respiration qui n'y arrive pas ? And the band play. En écoutant ce morceau et en le faisant écouter à ceux qui nous écoutent, Mélanie de Biasieu, vous dites il faut écouter ce morceau en live comme si vous étiez presque extérieur à votre musique et que vous vous disiez moi j'ai envie de l'écouter jouer en live. C'est étrange.
C'est un morceau qui arrive en fin de concert et qui amène quelque chose de bouillonnant qui n'avait pas encore vraiment été développé dans le concert. Et c'est un moment vraiment particulier. Donc c'est pour ça que je disais, il faut venir écouter ça en live le 4 décembre au Trianon. Venez
à Paris.
Certainement, quand j'ai chanté la comédie musicale pour avec John Barry, personne n'a trouvé cette qualité dans ma voix. J'ai hurlé comme tous les autres et je pense qu'il doit avoir une version originale de ce disque où je pense que j'avais une chanson à moi mais qui était absolument oubliable, où je n'avais aucun atout spécifique de chanter d'une manière originale. Et c'est Serge qui avait cette idée de chanter très très haut avec très près de le micro comme lui-même. Où on entend respirer dans ces disques. Et ça donne une grande intimité aussi quand la personne n'est plus là. Parce que l'autre jour, quand j'étais dans ma voiture, donc il y a plus que l'autre jour, il y a très longtemps, Lou était avec moi, elle était encore très enfant. Et généralement, quand Serge passe à la radio, je change de chaîne tout de suite. Et elle a dit, ah non, 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 reste, parce que regarde, comme il chante tellement près de le micro, l'impression que... Il est vraiment dans la voiture, enfin vraiment tout près. Et c'est vrai que c'est très troublant parce que c'est une des personnes qui a chanté le plus près de nous. Il a vraiment développé cette idée de parler, chanter et puis d'avaler le micro. Il est vraiment dans votre poche.
Serge Gainsbourg arrive à la fois dans l'oreille et dans la poche de Jane Birkin. C'est une archive de 1999 d'une émission de France Musique. Ce parler, chanter, ce souffle dont elle dit que c'est Serge Gainsbourg qui l'a emmené sur ce terrain-là. On pourrait presque dire, Mélanie de Biasieux, que c'est votre album, Lilies, est un album de beaucoup de choses, mais que c'est aussi et peut-être surtout un album de respiration. Pourquoi est-ce que le souffle est à un endroit si musical dans votre musique ? Vous voyez là encore ?
Je ne sais pas. On ne peut pas tout expliquer, je ne sais pas. Je me pose la question aussi parfois.
Quand vous écoutez ce disque-là, vous vous rendez bien compte qu'on vous entend beaucoup respirer, on vous entend beaucoup souffler, lorsqu'on vous entend parler et chanter, il y a comme une sorte de partition souterraine qui est la respiration, qui est là, tellement présente.
Mais c'est surtout l'intention qui prend forme sous forme de la respiration, mais en fait, c'est pas la respiration en soi, c'est l'intention en fait qui habite la respiration, qui fait qu'à un moment donné, on pourrait dire que c'est un album où on entend la respiration, mais surtout on entend des histoires sous cette respiration, et donc en fait des intentions. Et puis ce qui est intéressant, je trouve après, cette respiration a une intention, et encore une fois, chacun prend de cette respiration et en fait sa propre intention, mais elle est animée en tout cas.
C'est la vie intérieure qui précède le son, qui précède la musique, cette respiration.
Disons que c'est une respiration en tout cas qui n'est pas pesante ni claustrophobiante, ça se dit ?
On a compris en tout cas.
Ah. Mais au contraire, c'est une respiration qui pousse les murs, qui crée de l'espace, qui cherche les endroits où est de respiration, les endroits où on croit que c'est vide, mais en fait c'est plein. C'est juste donner du palpable à quelque chose qu'on croyait juste absent, sans prendre de la place.
D'ailleurs, Jane Birkin dit que le souffle, la respiration, c'est aussi ce qui reste de très vivant quand les gens ne sont plus là. Sa petite fille dit « Non, non, on n'éteint pas la radio, on entend Serge Gainsbourg parler, c'est comme si il était dans la voiture. »
Oui, 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 c'est...
Vous poussez les murs, Mélanie de Biasieux, en respirant, et vous photographiez, ou en tout cas vous faites photographier les murs, peut-être dans lesquels vous avez composé ce disque-là,
oui.
Une photographie qui est en noir et blanc, puis en lumière. Est-ce que vous pourriez nous décrire ces murs ou cet endroit,
oui.
Et pourquoi est-ce qu'il est si important ?
C'est l'endroit où j'ai habité pendant 15 ans, je pense, juste avant justement de partir sur Charleroi, qui est un grenier tout près de la gare du Midi, parce qu'en fait, je fais tout à vélo.
À Bruxelles.
À Bruxelles, pardon, oui, à Bruxelles. Et donc, soit je fais train, ou alors à pied, beaucoup, et surtout à vélo. Et du coup, c'était important pour moi d'être tout près de la gare. Et puis, j'aime bien regarder les trains. Je sais pas, simple. Et puis, je trouve qu'à la gare, il y a toujours des oiseaux bizarres, intéressants. Mais ce que j'aime dans cet appartement, c'est que c'est tout au-dessus, et que quand j'ouvre les deux grands Velux, on voit un des deux Velux, d'ailleurs, sur cette photo. J'ai l'impression d'être sur un paquebot avec la voile, et il y a un grand vent qui balaie l'appartement. Cet appartement était fait tout en bois, de briques et de broc, mais une grange. J'avais l'impression d'être dans une grange au-dessus, sur mes toits bruxellois. Et c'est là où j'aime écrire comme un petit oiseau, où j'aime aussi enregistrer. J'ai enregistré beaucoup de choses, beaucoup de prises finales aussi, même de No Deal. De l'album il y a quelques années. Et c'est un endroit où finalement aussi très Crusoé, dans le sens où il n'y a pas de machine à laver. Donc je lavais mon linge à la main. Il n'y a pas de lave-vaisselle. Je faisais tout à la main. Il y a un endroit quelque part qui aimait aussi vivre comme mes grands-mères vivaient. Donc il y a un endroit très... Et puis c'est vrai que bon, si j'avais besoin d'aller à la Ouassorette, j'allais avec justement mon vélo et à la thaïlandaise.
Le ballot de linge.
Le gros ballotin de linge. Mais j'aimais bien vivre. Disons qu'il y a c'est un autre espace-temps quand je montais ces étages sans ascenseur aussi au cinquième étage. Ça m'obligeait finalement à j'aimais ça. Je ralentissais le rythme. Déjà monter jusque là, c'était un certain sport pour mes invités. Pour moi, ça allait. À la fin, j'avais pris le pas, mais. Et puis oui, sur cette photo, qu'est-ce qu'on voit? On voit un porte-manteau avec toutes mes petites affaires. On voit justement le pot de chambre qui est un pot où je lave mes linges à la main. On voit ma petite cuisinière, on voit ma vieille petite lampe à chevet, là où j'écris sur mon bureau tout le temps. Et puis, on voit un paquet de cigarettes. J'ai arrêté de fumer, mais c'est vrai que j'ai pas arrêté de fumer il n'y a pas si longtemps. On voit un cendrier, coussin, des tapis.
C'est important pour vous de partager cette intimité en images? C'est la première chose qu'on voit.
C'est vrai. C'était une façon directe de vous inviter chez moi, avec quand même une certaine pudeur, vu que je vois ma nuque, on voit pas mon visage. Mais c'est pas l'important, parce qu'en effet, je trouve que dans cette photo, on voit tellement de choses de moi que finalement, mon visage, c'est pas très important. On voit tout de moi, en fait. On voit tout le côté bordel et en même temps tout le côté vivant qui me ressemble.
J'ai eu une éducation, j'ai été éduqué par des femmes, mes tantes, parce que j'ai perdu ma mère très jeune et tout. Et mes deux tantes et ma grand-mère, ils ont dit, il faut pas être comme des autres, parce que c'est du boulot. Reste toi-même, c'est plus facile. Et mon père, il dit, fais gaffe pour les pop stars et les stars. Je dis, il faut toujours accepter comme on est. Et je dis toujours, une vache dont du lait, pas de champagne. Tu vois? Donc, et je connais mes limites. Et je suis content aussi avec ce que j'ai, quoi. Je suis riche.
On finit par la richesse d'Arnaud. Vous avez éclaté de rire en entendant ses premiers mots. J'ai été élevée par des femmes et on m'a toujours dit que c'était plus crevant d'essayer d'être comme les autres que d'essayer d'être soi. Ça veut dire quoi, Mélanie de Biasio, d'être soi en musique?
Oh là là, waouh!
Ah ouais, mais c'est la fin de l'entretien, on peut se permettre.
Oui. En tout cas, il a raison sur le fait que c'est très fatigant d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre qu'à soi. C'est courageux de vouloir regarder ce qu'on est, de se retourner. Et puis il y a une détente en fait qui se crée, je crois. À partir du moment où on accepte de regarder un peu ce qu'il y a dans notre soupe et de se dire tiens, mais les ingrédients sont finalement pas si mal. Ou en tout cas, il y a j'ai envie de jouer avec et j'ai envie de. Et ce que j'aime chez Arnaud, c'est qu'il a une profonde véracité. Il y a quelque chose de véritable chez lui, dans son intention, dans la façon dont il accueille. C'est un frère pour moi, Arnaud. C'est quelqu'un qui m'a accueilli chez lui pendant quelques temps, qui m'a fait découvrir sa ville, qui est Ostende. C'est lui qui m'a fait découvrir le photographe Stéphane Van Vleteren, qui a fait ce travail sur Charleroi et qui en fait, pendant ce travail sur Charleroi, écoutait un disque, était complètement omnibilé par No Deal, et donc il a fait cette photo qui est finalement la couverture de Black and Cities sur la musique de No Deal. Donc toutes ces coïncidences qui n'en sont pas finalement. Arnaud, je trouve, est en même temps aussi proche du sacré, aussi proche du peuple, du citoyen, de la merde, il est proche de l'universel, je trouve, et il est tellement joyeux et généreux dans comment il nous partage sa nostalgie du vivant et sa nostalgie du bonheur. Bref, bonjour Arnaud, tu me mens, Arnaud, ça fait longtemps.
Mélanie de Biasio, c'est l'heure pour nous de vous remercier chaleureusement d'avoir été avec nous. Votre disque, il s'appelle Lilies. Tout à l'heure, vous avez glissé dans le souffle que le 4 décembre, on pouvait vous entendre au Trianon à Paris. On pourra vous entendre dans bien d'autres endroits et on mettra la liste des concerts sur notre site internet. Et puis quand même, on va faire juste un tout petit pas en arrière. On a parlé tout à l'heure de ce très beau projet de maison à Charleroi. C'est un projet qui s'appelle Alba. Vous disiez de manière très jolie qu'il y aura des choses à vivre à chacun des étages, mais pour faire vivre des choses à chacun des étages aux artistes de passage et aux hommes de la cité, il faut que ce projet se monte. Alors voilà, peut-être avis aux mécènes.
Mr. Jungle is in town, spreading whispers all around. Mr. Jungle like a thief, in my shadow heal at ease. Oh my burden, oh my beast, move me west, move me east. Mr. Jungle, could you please come in close, sweet will be.
Par les temps qui courent, quelle musique vous rend profondément seul?
Quelle musique me rend profondément seul? Ah, la musique ne me rend pas seul.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui continuera de vous faire peur? Par les temps qui courent, qu'est-ce qui continuera de vous faire rire?
Trop vaste comme question.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h avec Joris Lacoste. Quand vous voulez, sur franceculture.fr. La variation à ce moment-là du morceau est quand même vraiment dingue. Donc à la page de l'émission sur franceculture.fr. Et l'émission a été préparée ce soir, comme chaque soir, avec Romain de Bec-de-Lièvre, Jeanne Aléos, Corinne Amar, Lise Marie Barré qui la réalise, et au son, Emmanuel Morse-Duncan.
Thank you.